Radio Okapi.
Le journal Pascal Masirika.
Les titres de l'actualité sur Radio Okapi arrivés ce mardi à Bounia du procureur de la Cour pénale internationale CPI. La société civile locale attend que Karim Khan lance là-bas un mandat d'arrêt contre les auteurs des graves crimes commis. Lancement hier à Kinshasa de la géolocalisation des établissements scolaires publics et privés de la RDC. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, affirme qu'il s'agit des moyens les plus efficaces pour lutter contre la délocalisation anarchique des établissements d'une entité à une autre. Notre invité, c'est le chef des divisions provinciales du plan du Tanganyika. Crispin Ilunga parle du bien fondé de l'exposition organisée récemment par le Musée national de Kalemie sur l'histoire de cette ville. Madame, messieurs, bonsoir. Le procureur de la Cour pénale internationale CPI est arrivé ce mardi à Bounia, en Ituri, une province en proie aux graves violations des droits de l'homme commis par des groupes armés. La société civile locale affirme que Karim Khan doit lancer un mandat d'arrêt contre les auteurs de ces crimes. De son côté, l'Organisation des défenses des droits humains salue cette visite de la CPI qui prouve à suffisance l'attention que la Cour pénale internationale accorde au massacre des civils. À Bounia, la correspondance de Martial Kizabiamungu.
Les procureurs de la Cour pénale internationale, le CPI, arrivent à Ituri au moment où l'activisme des groupes armés s'accentue depuis le déclenchement des conflits en décembre 2017. Des centaines de civils ont été tués lors de multiples attaques de miliciens armés, des maisons incendiées et plusieurs infrastructures socio-éducatives détruites. Les attentes des victimes sont nombreuses. Dans sa communication ce mardi, la coordination provinciale de la société civile de Ituri dit attendre de Karim Khan une lutte sans concession contre l'impunité, dit Donné Lossa, coordonnateur.
Des procureurs, il doit se munir avec le mandat d'arrêt contre tous les chefs des milices qui sont en train de troubler la paix à Ituri.
Pour Justice Plus, une organisation de défense des droits humains à Ituri, cette visite réconforte les victimes qui attendent depuis 2017 la poursuite de leur bourreau. Son coordonnateur, Xavier Maki.
Que tous les crimes qui se commettent à Ituri doivent interpeller le bureau du procureur pour que les enquêtes soient ouvertes et que les auteurs de tous les crimes qui sont en train d'être commis à Ituri répondent de leurs actes.
La dernière visite d'un procureur de la CPI à Ituri remonte à juin 2009 avec Louis Moreno Ocampo. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Alors qu'il séjournait à Bukavu au sud Kivu, le procureur de la Cour pénale internationale a mis l'accent sur la nécessité qu'il y a de trouver une nouvelle manière de travailler pour mettre fin aux viols qui sévissent dans la région. Karim Khan l'a dit hier après son entretien avec le docteur Denis Mukwege. C'était en présence de la ministre de la Justice, celui de droits humains et de l'auditeur militaire des FARDC. Ces propos ont été recueillis par Cynthia Bachizinabizana.
Now, as the prosecutor of the International Criminal Court,
actuellement, en tant que procureur de la CPI, on est en train de travailler avec les autorités du pays depuis que la DRC nous a renvoyé la question. En 2004, nous avons des cas, mais il y a toujours une réalité qui est là en face de nous. Les viols ne se sont pas encore stoppés.
The crimes have not stopped.
Les crimes ne se sont pas arrêtés. Docteur Makwege a été ici depuis le début. Les victimes sont là. Donc le message est que nous devons trouver de nouvelles manières de travailler. À mon avis, on ne doit pas continuer de faire la même chose que nous avons toujours fait. Nous devons construire un partenariat beaucoup plus solide avec le gouvernement, les gouverneurs, société civile.
Heroes like Dr. Denis Mukwege.
Les héros comme Dr. Mukwege, le procureur militaire, le procureur civil et même l'Union africaine, l'Union européenne. Nous devons trouver le moyen de montrer que nous avons la volonté de travailler pour mettre fin à ces viols.
To work together in a way that ends the rapes that Dr. Denis is seeing.
Dans l'actualité, il y a également la fin hier à Bujumbura au Burundi de la réunion des chefs d'état-major des armées et des ministres de la défense nationale des pays membres de l'EAC. Les participants aux assises ont évalué sur place le mandat de cette force régionale qui s'achève à la fin du mois de juin prochain. La réunion de Bujumbura, la réunion des chefs d'état-major des dimanches, a été suivie lundi par celle des ministres de la défense nationale. Le compte rendu de Fiston Goma Mayabala.
Cette réunion fait suite aux recommandations formulées récemment lors du sommet de l'EAC tenu à Bujumbura et à la demande de la République démocratique du Congo sur l'évaluation des opérations militaires menées par les troupes de l'EAC invitées par la RDC pour rétablir l'ordre et la paix dans les provinces en proie à l'insécurité entretenues par les groupes armés à l'est de la RDC. Les deux réunions hautement sécuritaires sont organisées en prélude de la réunion des chefs d'État des États membres de l'EAC prévue demain mercredi toujours à Bujumbura. Selon des sources concordantes contactées à l'hôtel Club du lac Tanganyika et qui ont pris part à ces rencontres, le président Yoweri Museveni de l'Ouganda et le président William Ruto du Kenya sont attendus demain mercredi. Le Soudan du Sud a dépêché deux ministres. Du côté de la RDC, nos sources soulignent que le vice-ministre de la Défense de la RDC ainsi que l'adjoint du chef d'état-major général de FRDC en charge des opérations et renseignements militaires, accompagnant des experts militaires congolais venus de Goma, Bukavu et Kinshasa, ont pris part à ces travaux à huis clos. D'Ouvira Fiston, Momoyaba, la Radio Kapi.
Lancement hier ici à Kinshasa de la géolocalisation des établissements scolaires publics et privés de la RDC par le vice-premier ministre de l'économie nationale. Il s'agit d'un moyen le plus efficace pour lutter contre la délocalisation anarchique des établissements d'une entité à une autre. Peu avant, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a expliqué le 8 onglets informatiques mis en ligne pour assurer la gouvernance numérique de son sous-secteur. De précision avec le vice-premier ministre de l'économie nationale, des propos de Vital Kamere ont été recueillis par Alain Rongmouchinj.
C'est extraordinaire, ça peut paraître banal, mais à partir de votre téléphone, localiser votre école, savoir dans quel état il se trouve, et surtout, savoir les effectifs qui y œuvrent aujourd'hui, peut vous donner une idée de la tâche ardue qui attend les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique. En même temps, ça nous permet de maîtriser l'épineuse question des effectifs des enseignants. Ceci doit être fait dans tous les secteurs de la vie nationale, dans l'armée, police, fonction publique. Voilà que sans financement extérieur, il faut le souligner, le ministre Tony Mwaba vient de réaliser un miracle. Comme qui dirait, avec un peu d'audace, la bonne volonté, la détermination, on peut déplacer des montagnes. Il faut avoir la foi en nous-mêmes. Nous pleurnichons chaque fois que nous soyons assistés. Lui, tout comme moi-même, et surtout le président de la République, nous refusons d'être éternellement un pays d'assistés.
À Mbandaka, pendant ces temps, une centaine d'agents de l'État, de veuves et orphelins, se plaignent actuellement du retrait de leur nom des listings de paye depuis le mois d'octobre dernier. Ces agents de l'État travaillent aux divisions de l'intérieur, des transports et voies des communications et de la santé publique. Conséquence, leurs enfants n'ont plus été à l'école. Les malades n'ont pas accès aux soins médicaux. Les démarches qu'ils ont menées auprès des autorités n'ont pas du tout abouti. Quelques-uns d'entre eux se sont confiés à Paul Richard Malengela.
Nous sommes venus, nous sommes nombreux à la province de l'Équateur. Nos problèmes n'est que depuis octobre 2022, l'État nous a coupé le salaire. Jusque-là, l'État ne paye pas.
Nous sommes passés dans des différents bureaux chez nos chefs de division. Il n'y a pas vraiment solution. Nous sommes passés auprès du ministre de la Justice. Nous sommes passés même auprès du gouverneur. Toujours aucune solution au niveau provincial. C'est pour cela que nous appelons au vice-premier ministre de la fonction publique, M. Liaou, qu'il puisse nous donner la solution. Nous vivons difficilement parce qu'il y a aussi des étudiants qui ont coupé leurs études et puis dans la famille, il y a des veuves qui vivaient seulement d'être salaires et puis la vie, ça devient vraiment difficile dans nos foyers.
En réaction à cette préoccupation, le ministre provincial de la Justice de l'Équateur, Imbambo Nzobali, assure que le dossier de ses agents de l'État sera examiné prochainement par la Caisse nationale de sécurité sociale. À Bukavu, pendant ces temps, la société civile sollicite une mission de contrôle de l'Inspection générale des finances, IGF, sur l'utilisation des fonds alloués aux projets intégrés de croissance agricole dans les Grands Lacs, Picagel. Ce projet exécuté au Sud Kivu et au Tanganyika vise à accroître la productivité agricole et la commercialisation dans les zones ciblées en RDC. À un mois de la fin de ce projet, le président de la société civile Sud Kivu pense que les résultats sont mitigés. Jackson Kalimba le dit à Fulbert Balolagué.
Nous avions constaté que le bilan de ces projets est mitigé. 8 ans après que ce projet a été exercé chez nous, ce projet est un crédit au gouvernement congolais de la Banque mondiale. Ce projet devrait nous aider à pouvoir accroître l'agriculture chez nous et également devrait nous aider à la commercialisation des produits agricoles. Mais ce projet également devrait nous aider à lutter contre la famine et importation des produits agricoles dans des pays voisins. Mais à la date d'aujourd'hui, nous avions constaté, malgré ces crédits de la Banque mondiale au gouvernement, que même le piment est importé dans des pays voisins. Et donc, nous avions vu que le bilan de ce projet est tellement mitigé. C'est pour cela que nous avions demandé à l'inspection générale des finances, étant donné que la redevabilité reste le pilier de la bonne gouvernance, à pouvoir venir auditer ce projet pour éclairer les habitants de la ville de Bukavu sur l'utilisation des fonds déjà alloués à ce projet.
Notez que la coordination du PICAGEL a promis de se prononcer dans les prochains jours. De son côté, l'inspection générale des finances, IGF, précise que ce dossier est déjà retenu parmi les cas devant faire l'objet d'interventions sur le terrain. La coalition des organisations de la société civile environnementale recommande au gouvernement congolais de renoncer carrément au projet d'exploitation de pétrole et de gaz dont les appels d'offres ont été publiés l'année dernière, recommandation faite lors d'un point de presse animé ici à Kinshasa par le secrétaire permanent de cette structure dans la province de l'Ituri, Maître Jimmy Mungwaria. C'était hier dans la capitale congolaise. Pour la suite du journal sur Radio Kapi ce soir, sachez qu'un peuple déconnecté de sa propre culture est un peuple voué à la disparition. C'est ce que pense en tout cas l'animateur culturel du centre Ndaro du Sud Kivu à la fin de la foire culturelle du Bushi, dont les assises se sont tenues à Miti dans le territoire de Kabare, situé à une vingtaine de kilomètres au nord-est de la ville de Bukavu. Un reportage de Jean Kassami Biralibirou.
La foire a connu la participation de plusieurs griots rassemblés au terrain de Changala dans la périphérie de l'Inera Mulungu. Quelques notables bashi vivant à Kinshasa se sont déplacés pour la circonstance. Fidèle Mugaruka fait partie du comité organisateur de la foire. Il s'est dit navré de constater que même dans son village natal, la langue machi n'est plus parlée couramment, d'où la nécessité de stimuler les compatriotes à s'attacher à leurs valeurs culturelles.
Dans notre coin du Bushi, commençant par Bushibuhabu, donc Ijikale, Kabare, Walungu, et dans des autres espaces de Moua comme Burini, Burinja, notre langue est presque en disparition si on n'y fait pas garde. Nous, les parents modernes actuellement, on n'apprend plus notre langue à nos enfants. Et souvent, on a tendance à dire à quelqu'un qui parle le machi qu'il n'est pas civilisé. Il n'y a plus de jeux qu'on jouait avant dans nos villages.
Un autre vulgarisateur de la culture bashi, c'est bien Chakulwe Konda Bunyi Bunyi. Il est parmi les fondateurs du centre culturel Ndaro Yabakulukulu. Pour lui, un peuple qui minimise sa propre culture s'expose à l'extinction. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Sénégal, Ousmane Sonko a donné sa propre version des faits après avoir été ramené de force à Dakar par la gendarmerie nationale alors qu'il avait entamé une caravane populaire dans le sud du pays. Sur les réseaux sociaux, le leader du parti, PASTEF, a dit qu'il est actuellement séquestré à son domicile par les forces de sécurité et de défense. La tension est latente actuellement avant son jugement pour viol présumé prévu le 1er juin 2020. Et puis les États-Unis ne soutiennent pas du tout les attaques militaires visant la Russie, a affirmé ce mardi après-midi le département d'État américain après une attaque des drones contre Moscou, une attaque attribuée au camp ukrainien par le Kremlin. Le porte-parole du dit département d'État ajoute que Washington est concentré actuellement sur la fourniture à l'Ukraine de l'équipement et de l'entraînement nécessaire pour reprendre son propre territoire. C'était en marge d'une visite officielle du secrétaire d'État Anthony Blinken en Suède.
L'invité.
Notre invité, c'est le chef des divisions provinciales du plan de la province du Tanganyika. Crispin Ilunga parle du bien fondé de l'exposition organisée par le Musée national de Kalemie sur l'histoire de cette ville. Il s'entretient avec Paul Emunanga.
Monsieur Crispin Ilunga, bonjour.
Bonjour, monsieur Paulin.
Le Musée national de Kalemi vient de présenter une exposition dénommée Kalemi dans les rétroviseurs. Pouvez-vous nous expliciter ce thème?
En fait, c'est comme je l'ai dit dans mon exposé, un peuple sans histoire est appelé à disparaître. Un peuple doit savoir écrire son histoire. Comme un individu, à ce qu'il écrit, il laisse toujours des traces. Donc, il faut bien regarder dans son histoire pour projeter son avenir. On regarde ce qui s'est passé auparavant, ce qu'on a vécu, ce qu'on est en train de vivre, on projette. C'est totalement aussi de la planification. On ne peut pas avancer comme un véhicule dans l'obscurité. Vous avez les phares qui éclairent devant, mais il vous faudrait aussi un tableau de bord pour voir l'état actuel, mais aussi le rétroviseur pour voir ce qui venait de se passer là où vous êtes passé.
Et quel est l'objectif de cette exposition?
C'est justement pour aller retrouver nos sources, pour aller voir ce que nous avons été il y a 5, 10, 20, 40, 100 ans, 200 ans. Et c'est très important pour inculquer à nos enfants qu'ils comprennent comment est-ce que nous avons évolué, pour que aussi notre relève fournisse les prouesses de manière à porter le changement dans le vécu quotidien.
Et quels sont les faits majeurs qui ont marqué l'histoire de la ville de Kalemi, anciennement appelée Albertville?
Le premier élément, c'est les origines. Par rapport aux peuplades qui étaient ici, c'était des pygmées. Et le mot qu'on appelle pygmée, c'est un terme vraiment très péjoratif. En fait, les toits, comme sur tout l'espace de la RDC, de l'Afrique centrale et de l'Afrique australe. Deuxièmement, par rapport au fait de peuple, il y a eu des mouvements d'émigration, les Bantous se sont installés. Les différentes communautés, les Luba, les Bagua, qu'on appelle les Ololo, les Lumbwe, les Bakalanga, les Tabwa, les Zimba, ils sont à Rutuku, dont une partie a migré vers le Maniema à Kasongo. Donc, autant tous ces peuples-là qui ont vécu une exploitation terrible d'esclavage. Donc, à travers un trafic honteux d'esclaves où on a été soumis. Ça, c'est une première étape. Alors, dans la deuxième étape par rapport à cet esclavage, on a vu les explorateurs blancs comme Livingstone, le Morton, Stanley et tous les autres qui accompagnaient les caravanes d'esclaves et qui ont pu peindre comment était sombre cette pratique d'esclavage où les esclaves étaient abandonnés, mangés par les chacals, fusillades dans un marché d'esclaves, etc. etc. Mais aussi, j'ai parlé de l'abolition de l'esclavage et de la création de l'État indépendant du Congo. Après la conférence de Berlin, comme on a cédé à le bien Congo du roi Léopold II, donnant une mention spéciale avec la neutralité, qu'elle devienne ainsi exploitée par le roi de Belge, de la manière où il nous a exploité. Et c'est de cette manière-là qu'on viendra créer Kalemi à Albertville. D'abord, il y a eu une mission catholique au niveau de Mpala, tout autour de mission pour évangéliser. C'est ainsi que le roi de Belge va envoyer le capitaine Jacques de Dexmuth avec deux sous-lieutenants. Et c'est comme ça qu'on a pu chasser les Arabes. Et on a fondé Albertville Kataki, il y a eu Albertville Mutoa et par la suite Albertville qui est Kalemi qu'on reconnaît maintenant, on l'a installé.
Est-ce que la Première Guerre mondiale avait concerné aussi cette ville de Kalemi?
Kalemi, c'est le seul endroit de la RDC et pourquoi pas de l'Afrique centrale où il y a eu le champ de bataille de la Première Guerre mondiale. Et nous avons vu la force publique débarquer ici, dont aussi le grand-père de Thomas Luhaka avec les Bangwana. Il y avait les gens de Sankuru, les gens de Banyema, de la force publique, les gens du Katanga, notamment ceux de Kongolo, tous les braves de Moba ainsi que de Manom. Ils ont constitué cette force publique et ils ont combattu contre le Belge. Et on a mis en place les canons trappes. Donc avec cette vaillance, on les a chassés. Et par la suite, il y a eu la révolte des Batété là. Et voilà, c'est comme ça que s'est passée la question jusqu'à ce niveau. Parce que la deuxième étape, je raconterai les éléments de 1960, de l'indépendance.
Monsieur Crispin Ilunga, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, monsieur Paulin.
C'était l'invité de Radio Capi, le chef des divisions du plan de la province du Tanganyika. Crispin Ilunga parlait du bien fondé de l'exposition organisée récemment par le Musée national de Kalemi sur l'histoire de cette ville. Il s'entretenait avec Paulin Munanga. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Capi. Merci d'avoir écouté à Kinshasa. Il est 18h20. Infiniment merci à Richard Junior Kamunga qui m'a accompagné.